La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Toujours pas ça à siffler.
J'arrive pas à siffler avec mes lunettes.
La lunette dans la bouche.
Voilà, ça améliore, je trouve.
Et vous voici donc maintenant de retour dans la Midinale pour cette deuxième partie S'informer autrement. Et on va donc commencer avec Steph et la France-Afrique.
Ouais.
Il y avait longtemps.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de France-Afrique. En fait, c'est pour présenter le dernier livre publié dans les Dossiers Noirs. Les Dossiers Noirs, c'est une collection qui est dirigée par l'association Survie, dont on parle souvent ici, et qui a trait aux politiques france-africaines. Le dernier en question, il est publié. On a changé d'éditeur, on est édité chez Lux maintenant, qui est un super éditeur. Donc c'est un très beau livre, et ça s'appelle « Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française ». Et c'est un livre écrit par Michaël Poron, donc, qui est journaliste. Et en fait, je vais vous en parler un peu, parce que c'est vraiment un chouette livre. Ça se lit super simplement. C'est passionnant et c'est assez affligeant en même temps. Je vais pas vous raconter des trucs super gays. Très rapidement, il y a des moments dans ce livre qui sont tout à fait attendus, qui ne surprennent absolument pas. Le premier point, c'est quand même la collusion entre les diplomates français et le pouvoir, enfin et les pouvoirs en Afrique, dans le précaré français. Lors du dernier coup d'État au Burkina Faso, on a pu voir que la population, massivement, se tournait au moment du coup d'État et de la disparition de la personne qui était renversée et qui avait disparu. La population s'est massivement tournée vers les symboles du pouvoir français au Burkina, notamment l'ambassade de France. Les journalistes en France étaient complètement sidérés de voir que les Burkinabés et les Burkinabèses souhaitaient quasi mettre le feu à l'ambassade de France. J'ai entendu, pour ma part, sur France Inter, un journaliste tomber de sa chaise et poser la question à un spécialiste des relations franco-africaines, lui poser la question « Mais quand même, vous pensez que les Burkinabés ont raison de faire ça. » Donc l'historien lui a raison, je saurais pas le dire, mais en tout cas, il y a des choses qui l'expliquent. Et le journaliste de poser cette question, est-ce que vous croyez vraiment que la diplomatie française interfère dans la politique du Burkina ou des autres pays africains ? Là, l'historien n'a rien pu faire d'autre que d'éclater de rire et de lui répondre, en fait, ne serait-ce qu'au Burkina, sur les deux derniers renversements de pouvoir, la France était directement liée. Qu'il s'agisse de l'exfiltration de Blaise Compaoré ou qu'il s'agisse de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc oui, les Burkinabés ont bien raison de se tourner vers les représentations politiques françaises au Burkina pour demander des comptes. Donc ça, très clairement, dans le livre de Michaël Poron, il n'est évidemment pas question du dernier coup d'État au Burkina, mais il est question de tellement d'autres moments où les diplomates interviennent dans la politique africaine. Il y a un autre point qui est bien détaillé, c'est aussi comment la diplomatie française est noyautée par les services de renseignement français. À tel point que depuis 2 ans, il y a une réforme dans la façon de former les diplomates où on va vers un rapprochement avec la même façon de former les renseignements généraux. Y a tout un chapitre sur, sur un truc qui est très à la mode aussi, c'est la dénonciation des fake news, qui serait le fait de la Russie, qui viendrait alimenter un sentiment anti-français en Afrique. Michael Poron démontre très très bien que les ambassades sont bien souvent des lieux de désinformation. Et puis, on arrive à un passage, enfin on arrive à un chapitre qui est tout à fait abject et qui a trait à la traite des Blanches. Et ce chapitre s'appelle « Dans les anciennes colonies, tout est permis ». Le premier chapitre s'appelle « Ivresse et sexe ». Et on y... ça va, les gars? Donc, « Ivresse et sexe ». Et je vais vous lire le tout début de ce chapitre. C'est le premier conseiller de l'ambassade de France à Bangui, en Centrafrique. Sur une photo prise en soirée, il est entouré de trois jeunes femmes habillées de robe noire. Lui porte une chemise à carreaux bleus et blancs. Tous tirent la langue face à l'objectif. C'est la fête. Autre soirée, autre cliché. Il pose. Un gros cigare entre les dents. Avec une jeune femme vêtue d'une petite brassière rose. Il est manifestement fatigué. Sur une troisième image, assis à une table couverte de verres à moitié vide et de bouteilles de bière, il embrasse le ventre nu d'une femme. Ce diplomate en poste dans la capitale centrafricaine au milieu des années 2010 était un habitué de ces soirées, toujours entouré de, ouvrez les guillemets, ses tigresses, ou de ses, guillemets, panthères, comme il appelait ses, guillemets, amies banguissoises. Ce chapitre, il va ouvrir sur tout un passage sur la manière dont les diplomates et les militaires en poste se comportent avec les femmes africaines. Et ce chapitre, il s'appuie sur une thèse qui est en libre accès, qui est une thèse de Magdalena Brandt, qui a été soutenue en 2016 à l'Université de Paris 8. Je vous conseille d'aller voir, c'est assez spectaculaire. Sa thèse s'appelle « Boxer Bangui » et elle s'est particulièrement concentrée sur la Centrafrique, parce que c'est là-bas particulièrement que cette traite de personnes est si importante. C'est absolument abject. Il y est question évidemment de prostitution. Il y est aussi question de meurtre. Il y est question de jeunes étudiantes centrafricaines de 24 ans retrouvées noyées au fond d'une piscine dans les locaux, dans un endroit qu'on appelle les 17 villas. Et les 17 villas, c'est là où vivent les diplomates et les militaires français, donc sur le sol français. Évidemment, la famille de cette jeune femme n'a jamais eu de réponse à ces questions. On n'a jamais autorisé le fait que des gendarmes centrafricains puissent enquêter avec des gendarmes français. Et les militaires qui ont témoigné, parce qu'on savait qui était là, les militaires qui ont témoigné de cet événement n'ont jamais été ni inquiétés, ni condamnés, ni jugés, ni quoi que ce soit. Pire que ça, ils n'ont même pas été déplacés. Ils ont pu finir leur mission tranquillement en Centrafrique, dans les 17 villas. Ce chapitre-là, il est vraiment, vraiment abject. Et puis après, on arrive sur un autre chapitre, tout aussi dégueulasse, hein, et sur des questions que moi je découvrais, qui sont les questions d'externalisation des visas. En fait, il faut savoir que depuis très longtemps, maintenant, depuis une quinzaine d'années, c'est évidemment les ambassades et les consulats qui ont le dernier mot sur les personnes peuvent ou ne peuvent pas venir sur le territoire français. Mais ce n'est plus eux qui traitent les dossiers. Ce n'est plus eux qui traitent les demandes. Ça a été externalisé. Soi-disant, ça coûte moins cher à l'État français. Soi-disant, c'est plus efficace. La vérité, c'est que ce truc-là, ça part de deux choses. La première, c'est que on s'est rendu compte que dans tous les consulats, il y a eu une enquête qui a été menée, dans toutes les ambassades et dans tous les consulats en Afrique qui ont été visités, pas un seul de ces lieux, il n'y avait pas de corruption de fonctionnaires. Et le deuxième truc, c'est que un ambassadeur ou un consul, faut bien le comprendre, quand il est à la retraite à 62, 63 ans, il est encore en forme, quoi. Et bien souvent, ces petites sociétés qui sont montées pour faire le lien entre l'État français et les grosses sociétés qui distribuent des visas, eh bien, les intermédiaires, c'est des anciens ambassadeurs, des anciens consuls. Ils passent devant la commission de déontologie, attention, qu'il n'y ait pas de collusion. Et en gros, ça passe, ils ont le droit de faire ça, mais pas dans les pays dans lesquels ils étaient en poste juste avant. C'est-à-dire qu'il y en a un, par exemple, qui a été sa dernière affectation, c'était l'ambassade en Algérie. Alors, il a le droit de travailler sur ces questions-là au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais pas en Algérie. Et il le dit, je ne travaille pas en Algérie. Donc, ils se font de la thune. Et si vous voulez, il y a le même Michael Poron, sur cette question-là, vient d'écrire pour la superbe revue Afrique 21, dont les articles sont en libre accès, un texte qui s'appelle « Visa pour la France, le business des frontières fermées ». Et donc, c'est un article qui date du 5 octobre 2022. Et je vais vous en lire quelques morceaux. C'est un business florissant pour la France et très coûteux pour les Africains. Depuis plusieurs semaines, l'État français est accusé par plusieurs organisations civiles africaines de se faire de l'argent sur le dos des demandeurs de visa. Et en cette rentrée universitaire, les critiques sont particulièrement vives du côté des étudiants. Car c'est une règle, les frais dépensés, plusieurs centaines d'euros, ne sont jamais remboursés, même si la procédure n'aboutit pas. Donc là, on apprend que la Fédération marocaine des droits du consommateur, au mois d'août 2022, s'est saisie du sujet et a envoyé une lettre à l'ambassadrice du Maroc. Dans sa lettre, il demande la restitution des frais de visa non délivrés, invoquant un service non fait. Bon, évidemment, fin de non-recevoir. Le 14 septembre, donc un mois plus tard, 115 organisations des deux rives de la Méditerranée ont signé l'appel intitulé « La politique des visas, discrimination et injustice ». Ensuite, il va expliquer que c'est une politique, ce chantage au visa, là, qui est parfaitement assumé par la France, notamment par Darmanin, et plus récemment, donc le 28 septembre 2021, par Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement, qui parle d'une décision drastique, inédite, mais nécessaire, pour justifier la baisse sévère du nombre des visas accordés aux Tunisiens, moins 30%, aux Marocains, moins 50%, et aux Algériens, moins 50%. En réalité, c'est pas quelque chose de nouveau. Michael Poron raconte qu'en 2019, ce qui était une année normale pour lui, parce que pré-Covid, sur 1 500 000 quasi visas demandés en provenance de 47 pays d'Afrique, 30,47 ont été refusés. C'est presque deux fois plus que la moyenne de l'ensemble des consulats français. Dans le détail, certains pays se distinguent. C'est le cas de l'Algérie, 41,6% de refus. Sénégal, 42,7% de refus. Comores, 42,3%. Guinée-Conakry, 52% de refus. Nigeria, 41%. Bref. Et en fait, ça continue. Il fait une comparaison, par exemple, en disant « c'est un fait, la politique migratoire de la France est plus sévère pour les ressortissants africains que pour les autres personnes venant des autres continents. » Par comparaison, le nombre de visas refusés depuis la Chine, c'est 5,4%. Et là, dans son article, il va parler de l'argent, en fait, de l'économie que ces visas représentent. on est sur des chiffres qui sont hallucinants. En fait, il faut savoir, c'est le seul poste de recette du ministère des Affaires étrangères. C'est ce truc de visa. Alors, on a une super plateforme qui s'appelle France Visa.
C'est bien fait.
On se connecte avec France Connect, non,
c'est ouais, ça ? Tu te connectes avec France Connect, ouais,
déjà, c'est ça. Déjà, ça fait 40% de refus, parce que tu n'arrives pas à te connecter.
Donc, selon un rapport publié par le Sénat en 2018, les recettes tirées de l'activité Visa se sont élevées à 217 millions d'euros. En 2019, les prévisions étaient de 221 millions d'euros. Avec France Visa, une plateforme informatique sur laquelle s'enregistrent les demandeurs, les services consulaires pourraient bientôt voir leur activité principale disparaître. Surtout ce que ça fait, ces trucs de plateforme et de d'externalisation des visas, c'est que c'est à moindre coût pour l'État français. Évidemment, les gens qui travaillent dans les entreprises externalisées de traitement des demandes, ils sont embauchés en Afrique avec des contrats locaux. On les paye 130 euros, quoi. C'est le salaire minimum quand on les paye ça, quoi. Enfin, pour bosser 72 heures par semaine. Voilà. Et puis là, maintenant, donc il y a à la fois ça, donc ça coûte beaucoup moins cher sur place. Et puis, il y a un siège flambant neuf qui a été créé en 2018 pour centraliser tous les dossiers à Nantes. Il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères, il a deux sièges, enfin deux lieux vraiment principaux en France, à Paris et à Nantes. Donc France Visa, c'est à Nantes. Et tout sera dématérialisé. C'est génial. Ça coûte encore moins cher. Ça rapporte encore plus. Et donc, c'est une manne d'autant plus intéressante, dit Michaël Poron, que même ceux qui n'obtiennent pas le fameux sésame l'abondent. Contacté, le Quai d'Orsay se réfugie derrière le code Schengen. On cite. Le remboursement n'est pas prévu par la réglementation européenne et les frais sont fixés par le code communautaire des visas pour les visas. Enfin voilà, pour les visas sur le territoire. Évidemment, les dossiers sont tellement complexes et tellement opaques que en fait, on n'est quasi pas obligé de justifier un refus. Et que là, maintenant, ça vient toucher... C'est pour ça que l'article, il est écrit là. C'est que là, ça vient toucher de plein fouet des étudiants africains qui sont inscrits dans des facs en France. Alors attention, après France Visa, vous allez voir, il y en a une autre...
ça fait rêver l'administration.
Alors, ouais. Donc il dit en tout cas, donc, de nombreux étudiants africains admis dans une faculté française n'ont pu assister à la rentrée universitaire du 13 septembre. Certains ne comprennent pas le refus de leur visa malgré les sommes avancées et non remboursées. D'autres n'ont toujours pas eu de réponse. Aucun des étudiants contactés par Afrique 21 et ayant une demande de visa en cours n'ont souhaité s'exprimer. Tous craignent d'être reconnus et que leur dossier soit pénalisé. La plupart d'entre eux sont passés par Campus France, un service destiné à les accompagner dans les choix de l'université et dans la constitution de leur dossier. Le passage par cette institution, qui dépend de l'ambassade, est obligatoire dès lors qu'elle est disponible dans le pays de la demande. Ce service est facturé entre 60 000 et 75 000 francs CFA, donc entre 90 et 114 euros, selon les pays. En contrepartie, le prix du visa a certes été divisé par deux, 40 euros. Mais cela n'exonère pas les étudiants des frais facturés par l'entreprise intermédiaire. Il vient ajouter à ça un truc, à la politique migratoire française particulièrement sévère envers les ressortissants africains, c'est ajouter une autre décision qui a mécaniquement écarté des universités françaises de nombreux étudiants du continent. Entre 2018 et 2019, les frais d'inscription pour un étranger sont passés de 243 euros pour une année de cycle master à 3770. Oh, à cette époque, le gouvernement français avait pourtant envoyé des signaux contraires en affirmant vouloir accueillir 500 000 étudiants étrangers contre 300 000 auparavant. Selon Campus France, ils étaient 400 000 inscrits lors de la dernière rentrée universitaire. Il y avait parmi eux 150 000 Africains. Mais ce chiffre est un cumul comprenant les étudiants déjà inscrits les années précédentes et les nouveaux arrivants. En réalité, selon nos calculs, seuls 8 000 nouveaux étudiants africains ont obtenu leur visa pour venir étudier en France en 2022. Voilà.
Et donc, de ce que je comprends, il n'y a aucun lien qui est fait entre Campus France et France Visa, quoi. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire sur Campus France, on peut te valider, mais ça ne déclenche pas
l'obtention du visa.
C'est magique,
non,
ça.
Non, par contre, tu payes pour tout.
Donc, ouais. C'est une arnaque totale, c'est un vol.
C'est ça.
Bah, clairement, enfin, je ne sais pas, c'est... Comment on peut valider un dossier par une institution française qui valide un dossier d'inscription et qui, après, ne fait rien pour que le visa soit accepté. C'est purement du vol. Quoi.
La vérité, j'étais sur l'article d'Afrique 21, c'est aussi développé dans le bouquin « Les ambassades de la France-Afrique ». Le truc aussi, c'est que derrière, pour essayer de comprendre pourquoi ton visa est refusé, et pour se retourner contre le consulat, en fait, tu ne peux plus rentrer ni à l'ambassade ni au consulat. C'est plus possible. On te demande d'aller te tourner vers les plateformes.
Hotline.
Ouais. Et ça a l'air de rien, mais par exemple, à Dakar, l'ambassade, elle est plutôt au cœur de Dakar. La plateforme, elle est à 8 km. Enfin, là où tu dois déposer ton dossier, c'est à 8 km. Et en plus... Personne n'est responsable. Tu vas demander. Tu n'es plus reçu à l'ambassade. Donc, tu vas aller demander à VFS Global. C'est le nom de la structure. Pourquoi ton visa est refusé? Ils ne sont pas en capacité de te dire. Mmh. Et en plus, bon, il prolonge son analyse sur cette externalisation et sur la dématérialisation des demandes. C'est aussi... on se rend compte que... Il n'y a aucune sécurité des données personnelles, par exemple. Tout est... vas-y. Mmh. Et il y a des refus. Il y a des gens qui, à l'Assemblée ou au Sénat, ont posé des questions publiques. Et des questions dérangeantes, quand même. Où, par exemple, une femme... c'est véridique. Hein, une femme sénégalaise avec son petit enfant de 2 ans... On fait une demande de visa pour venir rejoindre, de visa court séjour, hein, pour venir rejoindre le papa de l'enfant qui vit et, sur le sol français. Ça a été refusé. Quand elle a voulu savoir pourquoi, on ne lui a pas donné de réponse. Du coup, elle s'est tournée vers des gens qui étaient en capacité de la défendre. Et en fait, ce qui est sorti, c'est que, accrochez-vous, l'enfant de 2 ans, n'avait pas exprimé clairement son souhait de venir en France. Ça a été porté par un sénateur, il y a 2 ans, je crois, au Sénat. Et en fait, c'est assez systématiquement des fins de non-recevoir.
Mmh. Bah là, oui.
C'est comme ça. Mmh. On examine les dossiers. Et puis, c'est des bras de fer, ce qu'on disait, sur le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. C'est des bras de fer aussi parce que c'est une punition quoi, contre ces pays. Enfin, d'ailleurs, on ne punit pas les pays, on punit les populations. C'est une punition parce qu'ils ne délivrent pas... Enfin, ils ne font pas revenir leurs ressortissants. Je te regarde parce que, Asghar, c'était toute la discussion avec l'imam.
Oui, c'était, on en avait discuté avec l'imam. Quoi, que les autorités marocaines refusaient de... il fallait un visa d'extradition pour pouvoir le renvoyer au Maroc. Et alors, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, quand il l'avait récupéré, le Maroc refusait pour emmerder Darmanin. Et aussi parce que, pour faire pression donc sur le ministère de l'Intérieur, parce que leurs visas sont à 50% refusés, quoi. Mmh. Donc des visas payants que tous les ressortissants marocains doivent... payer, mais qu'on leur refuse pour moitié.
Et qu'on ne rembourse pas derrière.
Non, il n'y a pas de remboursement. Enfin, ouais. Non seulement chaque ressortissant qui viendra faire du tourisme ou avoir sa famille en France payera ce visa, mais tous ceux qui seront refusés seront facturés. C'était exactement ce que...
Donc, un visa aujourd'hui, parce que les tarifs ont augmenté il y a 2 ans, quand on vient d'Afrique, un visa aujourd'hui pour venir sur le sol européen, c'est 80 euros.
C'est quasiment une paye mensuelle, non, pour certains.
Oui. C'est 80 euros la demande de visa, plus la demande de traitement, parce que comme tu es obligé de passer par ces saloperies de plateforme, donc tu es à 120 euros. Et puis, ces saloperies de plateforme, elles ont l'accueil normal, et puis elles ont l'accueil VIP.
Plus cher, donc.
Plus cher,
quand
du
tu
coup.
Payes.
Voilà, et en fait...
Ça apporte de quoi, ce bout de plus ?
Alors, le VIP, ils sont hyper réglo hein, sur la manière dont ils expliquent. VIP, ça ne veut pas dire que tu as plus de chances de l'avoir. Tiens, mon cul, en fait. Ça, c'est pas...
C'est juste que tu auras ta réponse de refus.
Non, plus rapidement.
C'est juste que tu n'attends pas à la porte de la plateforme et que tu as une petite salle, juste pour toi, pour remplir ton dossier. La vérité, c'est qu'il y a quand même peu de chances que... Donc, je redis, hein, il y a eu une enquête sur la délivrance des visas à un moment où c'était les ambassades et les consulats qui le faisaient. Pas un seul, ou pas une seule, n'a échappé à une constatation de corruption sur ces demandes de visa. Évidemment que ça change rien avec les plateformes externalisées, quoi. Évidemment qu'il y a toujours de la corruption sur ces demandes de visa. Mais n'empêche que les chiffres sont là, c'est quasi 40% des Sénégalais qui dépensent 200 euros pour faire une demande de visa et qui se font arnaquer, en effet.
La demande de visa plus inscription. Non, là tu parles...
Juste la demande de visa.
Ça revient à 200 pour eux.
Entre eux. Ouais, c'est 160. Et puis, si tu passes par le truc VIP, t'es sur ces chiffres-là.
Et
quoi.
Donc, si t'es étudiant, donc ça fait 200, plus les frais de...
Si t'es en capacité de payer 3770 euros de frais d'inscription...
En plus.
Plus les frais de la plateforme.
Voilà. Ça commence à faire cher.
Ça commence à faire beaucoup, ouais.
Mais même déjà, si tu ne payes pas les 3007, déjà, si tu fais ta demande de visa à 200 balles, plus
la plateforme, c'est... Non, ça revient à peu près à la même chose, parce que la plateforme, elle est à peu près 110 euros, et ta demande de visa est réduite de moitié. Ah, donc, oui. T'es à une demande qui est à 150 euros. Mais enfin, c'est le salaire minimum.
Oui, oui. Ouais, puis moi, ce que j'entends, c'est on pille déjà l'Afrique depuis des centaines d'années, etc. Enfin, des dizaines d'années, des centaines d'années. Et maintenant, on va carrément piller les populations africaines.
Non, c'est pas exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie.
Oui, mais là, on leur pique leur thune en plus, au passage.
Ah bah oui, mais on choisit ceux qui en ont. Si je me rappelle bien, parce que c'était au moment de la réforme des universités, là, c'était au moment de la loi d'autonomie des universités, et cette augmentation donc, qui est colossale, hein, c'est décuplé, quintuplé les frais de scolarité des étudiants étrangers, c'était... tout à fait rationnel, hein. C'est du même ordre que le financement du Quai d'Orsay par les visas. Il s'agissait en gros de financer les universités françaises, puisque c'était la grande idée, quoi. Il faut que les universités fonctionnent pas tout à fait comme des entreprises, mais bon, qu'elles produisent aussi de l'argent. Et donc, au moment de cette loi d'autonomisation, bon, alors évidemment, vous vendez ça, vous allez être libre, hein, mais vous allez être libre d'organiser votre budget. Et donc, il y avait la hausse des frais de scolarité, des frais étudiants pour les étrangers qui participaient à ce financement-là. Et il y avait dans le package hein, qui allait pareil, c'était la formation permanente, où là, les tarifs sont excessivement chers. Bon, bah, alors ça, c'est financé via Pôle emploi, etc. Mais c'est un transfert de fonds de Pôle emploi, hein, où on pouvait plus s'inscrire comme étudiant à l'université, mais on rentrait dans un cadre de formation, avec des formations light et souvent bidons, mais par contre qui étaient facturées dans ces ordres de prix-là. Je crois qu'une formation en formation permanente, c'était, oui, pour les moins chers, 3 500, et puis pour les plus chers, ça allait à plus de 5 000, quoi. Enfin, c'était de cet ordre-là. Et dans le même mouvement, il y avait l'obligation, en effet, moi j'étais dans une fac où il y avait énormément d'étrangers, et du coup, bon, bah, les questions d'inscription des étrangers se posaient à chaque début d'année, mais on avait l'obligation de passer du coup par cette plateforme, c'est France quoi déjà ?
France Visa ?
Non, l'autre, c'est le pour s'inscrire en fac.
Campus France.
Campus France, ouais, voilà. Et c'était un vrai problème, c'est-à-dire que c'était une manière, et c'était avancé comme ça, hein, de traiter les étudiants étrangers, non plus sur le sol français, mais en amont, quoi. C'était à peu près Enfin bref, c'était une manière de... Et on pouvait plus, les gens qui avaient des soucis de papier, ça devenait excessivement compliqué de pouvoir leur permettre d'être inscrits à la fac et de terminer leur cursus, quoi. Il fallait... Parce que tout se traitait en amont dans le pays. C'était l'externalisation de ces questions-là.
Oui, parce qu'en plus, une demande de visa, souvent, pour les étudiants étrangers, ils obtiennent quoi ? C'est pas pour la totalité de leur parcours ?
Non, ils sont obligés de la redemander tous les ans.
Donc, chaque année, tu peux être amené à faire refuser ton visa, quoi.
Oui.
Ah, c'est encore mieux, ça.
Ouais, bah, c'est ce qu'il dit, hein, dans l'article. Il y a des étudiants qui ont déjà commencé leur cursus scolaire en France et qui se sont vus, là, pour cette rentrée, refuser leur visa. Et il y a un dernier truc dans ce livre « Les ambassades de la France-Afrique » qui est articulé autour de le renforcement de la sécurité des ambassades dans la lutte globale contre le terrorisme. Du coup, et ça, on nous serine quand même sur ça, hein, par rapport à l'Afrique, à notre intervention militaire, tout ça, c'est toujours... lutter contre le terrorisme. Y a un chapitre dans son livre qui s'appelle « De la chair à canon bon marché », où donc il commence par rappeler les multiples attaques qu'il y a pu y avoir devant les ambassades et comment systématiquement, c'est pas des fonctionnaires français qui meurent. En fait, c'est des vigiles qui sont employés pour... Donc pareil, vigiles qui travaillent sous contrat locaux, qui sont employés par des sociétés externes, quoi, et qui viennent protéger les ambassades. Donc il y en a une, particulièrement, donc, à Abidjan. L'ambassade est située en plein centre-ville, dans le quartier du Plateau, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la présidence. Ça, c'est un truc, c'est aussi assez systématique. C'est comme ça, on peut passer tranquillement... d'un endroit à un autre et se planquer à l'ambassade de France. Depuis peu, comme dans d'autres chancelleries françaises, un mur est venu doubler l'enceinte historique, rendant désormais le bâtiment principal invisible. Deux sas blindés permettent de passer chacune de ces protections. Devant la porte principale destinée aux piétons, deux vigiles font le pied de grue en plein soleil. L'un d'eux ouvre une porte vitrée sans tain. Elle donne accès à un premier local gardé par trois autres agents, équipés d'un scanner et d'un portique de détection. L'organisation est la même pour le second sas. Tous les gardes sont employés par une société locale, SIGA Sécurité. Pantalon bleu et polo jaune, aucun n'est armé ni équipé de gilet pare-balles. Si la législation ivoirienne interdit aux vigiles de porter des armes, elle ne leur interdit pas de se protéger. Une première ligne bien fragile, si des hommes armés et déterminés se présentaient à eux. Donc là, l'un d'eux, un des employés, qui a accepté de parler. Donc il a... sous couvert d'anonymat. Il est marié, il est père de 4 enfants, il vit dans un quartier populaire qui s'appelle Yopougon, à une quinzaine de kilomètres de l'ambassade. Tous les matins à 5h20, je rejoins à pied une navette pour aller au travail. Il estime son emploi précaire. Nous n'avons pas de représentants syndicaux et chaque fois que nous avons voulu en élire un, la direction a menacé de nous licencier. Il prend son service à 6h30, sa journée dure 12 heures, à raison de 6 jours sur 7. Il travaille 72 heures par semaine. Le droit du travail est pourtant clair, la durée hebdomadaire légale est de 56 heures par semaine. Il est payé 110 000 francs CFA par mois, prime comprise, soit 170 euros. Le salaire minimum, c'est 137 euros. Il précise par ailleurs que certains équipements, dont ses chaussures de sécurité, ont été payés de sa poche. Nous cotisons à la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais il n'y a aucune assurance ou prime de risque. Donc là, on raconte qu'il y a eu des grandes manifestations pour dire que ça n'allait pas. En fait, quand ils étaient malades et même quand ils avaient un certificat, on leur retirait leurs jours non travaillés. Ils ont tous des contrats en CDD. Normalement, au bout de 2 ans, ils doivent passer en CDI. En réalité, ils ont plein de contrats d'un an. On leur accorde des congés d'un mois ou deux et puis on les reprend sur des contrats d'un an. Voilà. Donc là, il dit « Mon salaire me permet tout juste de payer ma maison et les charges. Ma femme est une commerçante qui gagne peu d'argent. Je suis obligée de faire des petits jobs à côté pour subvenir aux besoins de ma famille, à côté des 72 heures de travail. » Bon. Et là, je vais terminer. SIGA Sécurité, donc son employeur, emploie quelque 3000 vigiles dans tout le pays. Elle gère aussi le gardiennage de la résidence de France. SIGA Sécurité est dirigée par une Française, Maryse Malagan Del Puech. La société a été créée par son père en 70. La patronne est, depuis au moins 2011, l'une des deux conseillers du commerce extérieur de la France en Côte d'Ivoire. SIGA Sécurité est une filiale du premier groupe de sécurité française, Seris, dirigé par la famille Tempero, entrée dans le palmarès des 500 familles les plus riches de l'Hexagone. Ce groupe ne compte pas moins de 43 000 salariés et son chiffre d'affaires mondial atteint 662 millions d'euros en 2020, selon son site internet. Et Michael Poron de conclure, c'est ainsi. L'État français sous-traite le gardiennage de ses ambassades à une société française de droit local qui profite des conditions minimales qu'offre une législation approximative pour faire de substantiels bénéfices.
Bien.
Moi, je voulais te demander, est-ce qu'ils donnent justement des noms de sociétés qui touchent en fait les marchés publics pour le côté visa ?
Il y a les noms des entreprises qui ont les marchés. Il y a aussi le nom des dirigeants et des anciens ambassadeurs qui font les liens entre l'État français. Mais il y a aussi tout un chapitre sur le BTP et sur comment on va rénover nos ambassades, enfin tout ce qu'on possède là-bas. Avec des sociétés écrans, en fait. Normalement, tu es obligé de donner, je vais dire une bêtise, mais un pourcentage des marchés à des entreprises locales. En fait, il s'avère que c'est des entreprises locales, mais qui dépendent de grands groupes, et que finalement, notamment en Centrafrique, il y a un exemple, où en fait, pas un seul euro dépensé n'est revenu pour vraiment une entreprise africaine. Et là aussi, hein, ils donnent des noms, c'est...
Souvent en plus, ce type de sociétés en partie françaises sont financées et subventionnées par l'aide française au développement des pays. C'est un des grands classiques, c'est-à-dire que pour aider ces pays à se développer, on finance les entreprises françaises qui vont permettre ce type de procédure. Mmh. La France exporte énormément de son savoir en termes de sécurité biométrique et de compagnie. Il y en a une qui s'appelle Idemia, qui fabrique les passeports. Elle s'occupe aussi, je crois, du contrôle numérique pour les élections. Et il y a d'ailleurs le Mali qui, il n'y a pas longtemps, avait lancé un mandat pour que Le Drian vienne... un procès, puisque son fils tient une de ces sociétés-là et qu'il a bénéficié du marché des passeports au Mali, dans des circonstances apparemment qui restent à être éclaircies par la justice.
Parce que le marché était plus cher, de moins bonne qualité. Le Drian, qui...
Son fils.
Le Drian était pointé tout le temps où il a été ministre des Affaires étrangères. Quand il faisait un déplacement, son fils l'accompagnait. Il n'était rien pour le ministère en France, quoi. Si ce n'est commencer à faire du réseau, faire des affaires.
Collusion, quand tu nous tiens.
C'est un super bouquin. C'est évidemment pas réjouissant, mais c'est écrit super simplement. Et puis, ça dégomme petit bout par petit bout tout ce qu'on a, parce que l'imaginaire des repas de l'ambassadeur, enfin, c'est quand même un truc. Et puis, je sais pas, c'est, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais petite,
c'était la plus faire au rancher, non?
Non, oui, alors il y a ça, mais quand j'étais petite, être ambassadeur, c'est quand même la méga gloire, quoi. Bah, en vérité, c'est la méga gloire, mais faut voir ce qu'ils en font, quoi. En fait, c'est des gros fumiers qui sortent tous des mêmes écoles, qui ont tous les mêmes réseaux, et voilà, et qui continue, applique une politique coloniale en Afrique, quoi. Donc, mais je vous conseille vraiment ce livre, c'est éclairant, quoi.
Ben, merci Steph. Et alors, est-ce qu'on continue sur S'informer autrement ?
Oui, on va continuer sur S'informer autrement, parce que dans S'informer autrement, par exemple, on peut écouter les reportages faits par les journalistes de Radio Piquet.
Ouais, on peut.
Hein, on peut. Et donc, on va revenir un peu. Bah, on parlait des grèves dans la partie revue de presse tout à l'heure. un de nos journalistes est allé prendre du son devant le rassemblement qui a eu lieu vendredi midi devant la sous-préfecture de Brest. C'était un rassemblement en soutien, enfin en défense des droits de grève. Ça, c'était suite aux premières réquisitions ordonnées par le gouvernement sur les ouvriers des raffineries. Donc, qui attaque clairement le droit de grève. Et donc, il y avait un rassemblement à Brest ce vendredi dernier à midi. On a été interviewés un peu pourquoi les gens étaient là. Donc on vous propose, ça dure à peu près 10 minutes, on vous propose d'entendre les Brestois, les Brestoises et peut-être des gens qui n'étaient pas forcément de Brest dire pourquoi ils étaient là à ce rassemblement.
Et est-ce qu'à l'issue de ce petit entrevue, entretien, interrogation, on fera la pause musicale pour l'agenda?
Et après on enchaîne direct la pause musicale après ces,
okay,
après
ça marche,
ces interviews.
Allez, on vous dit à tout à l'heure.
Avec un camarade de la CNT. Donc voilà, je voulais juste savoir un peu la position de ton organisation, pourquoi tu es là aujourd'hui et quelle suite t'attends en fait de ce mouvement-là qui est porté par les raffineries principalement.
Pour moi là c'est un début d'une colère hein, qui gronde depuis pas mal d'années et qui vraiment commence à s'intensifier pas mal. Là aujourd'hui on est là justement par rapport pour défendre le droit de grève et c'est pour débuter cette mobilisation qui se veut interprofessionnelle à partir de mardi prochain. Dans certaines raffineries, des ouvriers ont été réquisitionnés justement pour réouvrir ces raffineries, alors que le droit de grève est inaliénable, on ne devrait pas pouvoir revenir dessus. On est là pour dire que c'est la merde et qu'à un moment, il va falloir se mobiliser.
Ok, je te remercie. T'as peut-être quelque chose d'autre à dire ou...
À part appeler à la grève générale, pas grand-chose.
Voilà. Merci. Salut, qu'est-ce que tu fais là ici? Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu viens pour un collectif déjà ou non?
Non, je viens en tant qu'individu, comme beaucoup on est aussi, quoi. Il n'y a pas que les syndicats, mais je viens là pourquoi il y a une attaque sur le droit de grève, il y a des réquisitions, et puis c'est peut-être le moment de leur répondre par une bonne grève générale. Je crois que c'est le moment. Tout le monde s'y met, là, ça part partout, les transports, les pétroliers, et puis plein d'autres, ça va prendre, les enseignants, les... Puis je pense qu'il est temps qu'on arrête de les laisser faire, quoi. Donc faut tous en grève, on y va, tous et toutes, bien sûr, et voilà. Donc on vient juste exprimer notre ras-le-bol, quoi, et qui grandit de jour en jour, et en espérant que ça prenne ce coup-ci, quoi, et qu'ils comprennent un peu, quoi.
La première ministre a demandé au préfet mardi de réquisitionner l'ensemble des travailleurs d'Esso, ExxonMobil. Pour autant, celle-ci, au-delà de ne pas être nécessaire, est illégale. Comme l'a rappelé l'OIT dans sa condamnation de la France en 2010, la réquisition ne doit concerner que les activités essentielles des véhicules sanitaires, de secours, de sécurité. Pour nos syndicats, CGT, FSU et Solidaires, un gouvernement n'a pas à s'ériger en arbitre de la légitimité d'une grève, encore moins à se transformer en casseur de grève. Rappelons, s'il le fallait, que les premiers touchés par la grève, ce sont les salariés qui se privent de leur salaire, et que c'est le patronat, en refusant d'augmenter les salaires, qui est responsable des désagréments sur le quotidien des salariés. La colère sociale est plus que légitime, alors que les actionnaires des groupes pétroliers se gavent de dividendes, tandis que les travailleurs et les travailleuses peinent à obtenir 5 ou 6% d'augmentation des salaires, alors que les prix flambent.
Les unions locales brestoises, CGT, FSU Solidaires, apportent leur total soutien aux grévistes réquisitionnés dans les Bouches-du-Rhône, le Rhône et en Seine-Maritime. Nous allons être reçus en sous-préfecture pour rappeler à l'État et au grand capital le droit de grève. L'intersyndicale appelle à la grève et à la mobilisation le 18 sur les salaires et l'emploi et le droit de grève. Une manifestation aura lieu à Brest à 11h à Liberté. Des AG sont déjà prévus dans certaines entreprises pour de possibles suites au 18 par une généralisation de la grève dans le public et dans le privé. On lâche rien.
Donc tu fais partie de la CGT CHRU Brest-Carré.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire un peu la position en fait, de ton organisation par rapport à la grève des raffineurs et pourquoi vous êtes là aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour la suite?
Bah, concrètement, là, ça fait, nous, dans notre secteur de la santé et du médico-social, ça fait 2 ans qu'on est mobilisés, y compris sur des questions de salaire, donc on est hyper concernés sur la question. Des richesses, on sait qu'il y en a, on voit bien avec des entreprises comme Total et les super profits. Donc à un moment donné, ce qu'on demande, et c'est en commun avec tous les salariés, tous les agents du public, une meilleure répartition des richesses et donc une augmentation des salaires, parce que nous, on a eu effectivement des négociations, mais c'est des primes, voilà, c'est des parts variables. Non, nous, il faut vraiment une augmentation de salaire qui soit à la hauteur des profits que génèrent certaines entreprises.
Et tu penses que là, il y a une coordination suffisante, et notamment de la centrale, pour pouvoir obtenir une hausse générale des salaires et...
Bah, ça a été la difficulté de ces dernières années, hein, très, très clairement, c'est la convergence. Parce qu'on a plein de secteurs, plein d'entreprises, et l'hôpital en première ligne ont été mobilisés. Derrière, on a vraiment du mal à, effectivement, à peser sur une politique générale des salaires. Est-ce que c'est le bon moment ? Oui, il y a un niveau d'exaspération dans la population, dans les boîtes. Donc, en tout cas, la CGT elle fera tout pour faire converger et voilà, faire monter ce mouvement-là. Ouais.
Ok, bah, je te remercie. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis me dire un peu pourquoi vous êtes là et quelle suite vous envisagez pour le mouvement et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'amplifie, si c'est ça que vous voulez, j'imagine que oui, mais...
Donc moi c'est Maryse, je suis syndiquée à Sud PTT, donc je travaille en bureau de poste et pour la Banque Postale. Je suis là aujourd'hui parce que il est important que tout le monde descende dans la rue pour revendiquer et lutter contre la Macronie qui nous enlève en fait tous nos droits. D'abord le droit de grève qui est bien mis à mal là avec les réquisitions qui sont illégales en fait. Bien malgré le discours des dirigeants, c'est illégal. Et donc c'est un droit fondamental. Et après il faut se mobiliser à partir de mardi 18, tout le monde dans la rue, grève générale et on fait la révolution. On met tout par terre pour les salaires, pour le pouvoir d'achat. Vous n'avez qu'à regarder dans vos caddies, hein, faire vos courses, ça devient la misère. Ce que vous achetiez il y a un mois, vous ne pouvez plus l'acheter. Et vous regardez votre caddie et finalement, vous êtes obligé de faire un tri. Quel est l'essentiel? Et les enfants, par exemple, ou, voilà, vous pensez au cadeau de Noël ou faire un plaisir à quelqu'un, vous n'en avez plus. C'est un gouvernement qui nous enlève tout plaisir, tout droit de vivre dans le confort, en fait. Et grâce à notre salaire, donc au produit des richesses.
Oui, bonjour, bah, du coup Vivien, moi je suis facteur ici sur le centre-ville. Moi j'ai parlé plutôt aussi de ce qui nous concerne nous directement par rapport à notre emploi, c'est la suppression du timbre rouge d'ici le 1er janvier. Donc voilà, un simple timbre pour beaucoup de gens vont dire que, comme notre direction par exemple, bah, qu'on écrit moins, que c'est vachement dématérialisé. Mais c'est hyper important, en fait c'est la pierre angulaire de notre métier. En l'occurrence, tous les métiers sont liés, hein. Les métiers qui sont en soutien, donc les personnes qui sont dans les entités, donc les centres de tri, hein, les PIC, ça s'appelle comme ça, les PIC. Nos collègues qui sont au réseau, qui vous vendent des timbres, des produits postaux dans les bureaux de poste. Et nous, sur le terrain, en fait, les facteurs, que les compelsols, les agents du quotidien, on a envie de dire, on est comme là 6 jours sur 7. C'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Donc on est vraiment la vitrine avec nos collègues qui sont aussi face aux usagers, comme je vous l'ai dit, dans les réseaux. Donc le timbre est hyper important, ce timbre rouge. On a bien vu des augmentations de prix, donc c'était pas innocent de la part de la Poste. Le fait que ce timbre disparaisse, en fait, ça va engendrer comme la perte à hauteur de 20 000 emplois qui se rajoutent aux 15 000 emplois qui sont supprimés tous les ans. En l'occurrence, depuis une dizaine d'années, on est face à un plan social déguisé, tout simplement.
Les flics car ils servent la nation. C'est le même qui construit aéroports et prisons. Je hais les flics, car je hais les cages dans lesquels ils voudraient nous voir tranquilles et bien sages. Je hais ce qu'ils défendent, un monde sécuritaire, bien plus que liberticide, oui la note est amère. Je hais les flics, car leur violence on l'encaisse. Pour eux l'impunité face à la mort de Rémi Fraisse. Et ils parlent de justice sur ton écran de teubé. Trapage du terrorisme pour bien le faire flipper. Que les présences policières te semblent légitimes. Qu'avec ton consentement, lentement l'on supprime. Un peu plus de liberté au nom de l'ordre et de leur règne. Un peu plus d'humanité au nom de ceux qui nous malmènent. Un peu plus de solidarité au nom d'une peur syrienne. En attendant sur les pavés, c'est nos gueules qu'ils saignent. Un tour de magie qui te retourne la tête. Tu rêves de flic juste sous ta fenêtre. Foutage de gueule, des médias de masse, des médias de masse. Même Renault les embrasse. Un tour de magie qui te retourne la tête. Tu rêves de flic, juste sous ta fenêtre. Foutage de gueule, des médias de masse, des médias de masse. Même Renault les embrasse. Moi je crache dans leur képi et je crie bien haut. C'est mes frères qu'ils rapatrient, ces ordures de facho. Que c'est nos gueules qu'ils ont dans leurs fichiers. Quand on t'accuse de délit de solidarité. Et non, je ne vous aime pas en fait, je vous déteste. Le résultat de vos actions crée l'enfer terrestre. C'est pour nous protéger, vous nous foutez des roustes. Que vous nous enfermez, qu'au sang pape vous dites oust. Foutage de gueule, en bonne et due forme. Finalement, je rêve de comico qui crame. Et je suis pas le seul, y'en a ras-le-bol de leur méthode sans état d'âme. Non, les médias n'aident pas, ils vont dans le sens du poil. Et nous dirigent vers une belle merde sociale. BFM fait du passe-passe avec les cerveaux. Et c'est toute une masse qui tombe dans le panneau. Un tour de magie qui te retourne la tête. Tu rêves de flic, juste sous ta fenêtre. Foutage de gueule, des médias de masse, des médias de masse. Même Renault les embrasse. Un tour de magie qui te retourne la tête. Tu rêves de flic, juste sous ta fenêtre. Foutage de gueule, des médias de masse, des médias de masse. Même Renault les embrasse.
Pourquoi les étoiles brillent la nuit? Pourquoi on voit le soleil et la lune en même temps? Pourquoi j'ai pas de poils aux zizi? Pourquoi comme le cours du pétrole la mer monte et descend? Pourquoi on appelle ça des perce-oreilles mais ça perce pas les oreilles? Pourquoi t'es fatigué le matin quand tu te couches tard la veille? Pourquoi papa regarde la télé, maman fait la vaisselle? Eh, je suis trop fatigué des questions, des mystères. Le monde est infini, à tout est son contraire. Je pousse la porte de la chambre de mon frère, il est là, il rappe comme un gangster.
Elle descend la braguette, je fais lever la baguette. Sa bibi la zipette, de Vezou la bouquette. Je dévalais la vallée, du zeyo dans le panier. La daronne a fallé sur banquette en osier. Je te baise et je disparais. Je souris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré. Je te baise et je disparais. Je souris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré.
Tristan, Timothée, on vous attend dans la cuisine. Maman a préparé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père, si vous descendez pas tout de suite. Il peut être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant.
Est-ce que papa est encore amoureux de maman? Est-ce qu'un enfant peut régler les problèmes des parents? Est-ce que je dis à tata que tous les soirs je vois maman pleurer devant? C'est tranquillisant. Pourquoi papa dit toujours que c'est un accident? À l'école la maîtresse dit qu'un accident c'est un truc qui arrive pas souvent. Ça veut dire qu'il y a des mamans chez qui ça arrive plus souvent.
J'opère dans les combines, braco, recel. Même rodave les poulets je domine. Je mets à genoux les éduques, spé, taspé, racli, conseil, discipline. La place de la femme c'est la cuisine. Parce qu'elles sont pas fans de se casser le dos à l'usine. Y'a qu'un pouce entre une bite, une tétine. Cassage de pétard lourd comme Russie, Poutine.
Tristan, Timothée, ça pue l'essence dans la cuisine. Papa a dégommé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père, si vous descendez pas tout de suite. Il va être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant.